ou qui, dans la lumière.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Nadia Ferrouki se dit reporter photographe et pas ethnologue. À regarder ses photos, il y a quand même un sérieux doute. Diplômée en relations internationales, polyglotte, exploratrice du monde, avec dans le coup fin des origines tchèques et algériennes, Nadia Ferrouki développe un certain regard, pas forcément cinéma, mais formidable troisième œil sur la diversité du monde. Des travaux publiés dans la presse et exposés dans les galeries et les musées internationaux. Dans son objectif en sol majeur, les sociétés matrilinéaires, les Mossos en Chine, l'île de Sumatra en Indonésie ou les Bijagos en Guinée-Bissau. À voir en ce moment, au nom de la mer, le matriarcat en question, des photos somptueuses exposées à l'atelier Galerie Taylor à Paris dans le 10e pour le lancement de son livre « Les matriarches » publié chez Albin Michel. Messieurs, vous êtes les bienvenus, mais vous prenez les patins. Bonjour Nadia Ferrouki.
Bonjour.
Mais avec votre consentement, hein, puisque vous, c'est vous qui avez programmé ce James Brown. Pourquoi It's a Man's World?
Ben, comme son titre l'indique, c'est voilà, une chanson que j'aime beaucoup, comme beaucoup de monde. Et le texte, il est magnifique. Je trouve que c'est tellement vrai. Et c'est encore un man's world.
La chanson dit en gros, l'homme maîtrise le monde, contrôle le monde, mais en fait, il n'est pas grand-chose sans la femme.
Sans la femme, exactement. Oui. Mais ça, c'est aussi un petit peu facile dans le sens où on dit souvent, moi, par rapport à ce travail, on me dit souvent aussi, oui, mais de toutes les manières, c'est quand même les femmes qui dirigent toujours, donc à la maison. Oui, d'accord.
Dans l'ombre, il y a toujours une femme de l'ombre.
Exactement, mais dans la rue, c'est autre chose.
Je me réjouis de vous entendre aujourd'hui, d'autant que vous, la photographe que vous êtes, êtes persuadée que les hommes n'ont pas la même vision du monde que les femmes. Et là, je parle de votre œil de photographe.
Oui. Enfin, disons que c'est par rapport à la photo, mais en fait, ça va plus loin. C'est-à-dire que je trouve, c'est une généralité, je trouve que les hommes voient le monde avec un 50 mm, c'est donc un objectif qui voit les choses sans trop voir sur les côtés. Et les femmes, plus avec un 24 mm. Donc, c'est avec un grand angle, plus large. Je trouve que les hommes sont un peu plus, un peu comme s'ils étaient spécialisés dans un domaine, alors que la femme, elle est plus diversifiée, elle est plus ouverte.
C'est quelque chose qui
s'adapte plus facilement, elle est plus souple, peut-être parce qu'on, même pour celles qui n'en mettent pas au monde, mais en tout cas, elles ont cette capacité de mettre au monde des enfants. Donc, voilà, une espèce de flexibilité, une ouverture sur le monde qui est plus large que les hommes.
À méditer. Pour rentrer dans votre regard et dans votre histoire, Nadia, on va ouvrir votre album sonore avec la photographie de plusieurs voix familières et familiales.
Alors moi.
Ah ben, chante, je sais pas, n'importe quoi.
Quoi, je sais pas, vous l'arrêtez, je connais pas.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en d'ici ou bien d'ailleurs.
واحد اثنين يعيشوا مونيواج يعيشوا ما بلانيت يعيشوا كور دو مون ايتوال.
Ça sent bon le monde dans toutes ces voix familières qui vous donnent les larmes aux yeux, Nadia Ferrucchi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquet?
Comme mon père n'est plus là, c'est d'autant plus dur et j'ai la chance d'avoir un père, d'avoir eu un père qui était juste exceptionnel, très ouvert d'esprit, très en avance par rapport aux hommes de sa génération, de sa culture aussi. C'est vrai qu'en plus entendre toutes ces voix, on sait bien que c'est super qu'on a fait cet enregistrement et qui était vraiment quelque chose de spontané.
Avec plusieurs langues hein, dans ces enregistrements.
Oui, oui, ben, mon père algérien, donc ma mère tchèque, mais qui chante en russe, là, parce qu'elle a étudié le russe. Ma sœur qui récite un poème en arabe. Et moi qui chante, je crois que c'était à Veveinouva, là, c'est mm-hmm, ça, oui, mm-hmm. En kabyle.
Enregistrement qui date de 1977.
Oui.
Vous aviez 7 ans à ce moment-là.
Oui.
Et vous viviez où?
À Alger. Et ensuite, on est parti donc en Autriche. Alors là, ça a été un peu difficile pour moi, en fait. Mon père me disait toujours que je disais, donc à l'époque, quand on est parti, tout est gris ici, le ciel est gris, les murs sont gris, même les gens sont gris, voilà.
C'est la seule chanson du monde que l'on n'oubliera jamais.
Quel est votre premier port d'attache?
Mon premier port d'attache, c'est l'Algérie. Après, j'ai vécu à l'étranger, donc en Autriche, ensuite aux États-Unis, puis je suis venue à l'âge de 23 ans en France, donc assez tard. Du coup, je m'étais beaucoup éloignée de mon côté algérien. Et aussi, quand j'étais en Autriche, il y avait tout un problème. C'est-à-dire, quand je suis arrivée à l'école, j'avais un accent un peu arabe, en français, donc j'ai subi des moqueries et donc j'ai un peu occulté toute cette partie. Donc j'ai eu honte de dire que j'étais algérienne pendant plusieurs années. Et c'est seulement plus tard où, à travers la photographie, je me suis réappropriée cette culture, ma culture, mon pays. Voilà. Mais c'était vraiment à travers la photo.
Vous avez retrouvé la lumière.
La lumière, c'est exactement.
Dire,
c'est vraiment
dans
le cadre.
Alors, ces mutations, ces déménagements sont dus à la profession de votre père. Il était diplomate, il travaillait à l'OPEP à un moment donné. Donc...
Oui, il a travaillé à l'OPEP pendant 7 ans, ensuite à la Banque mondiale à Washington.
Donc l'Algérie, donc l'Autriche, puis les États-Unis à Washington, autre choc, hein, dites-vous.
Oui.
Du coup, la question, c'est en termes d'ancrage pour vous, c'est une histoire pas si simple.
En fait, ça a été très difficile. À l'adolescence, je ne savais plus d'où je venais, qui j'étais. Voilà, il y avait une espèce de crise identitaire, mais vraiment à travers toutes ces cultures. Et au fait, je voyais ça plus comme une faiblesse qu'autre chose. Et aussi la maîtrise, parce qu'en fait, on maîtrise plusieurs langues, plusieurs cultures, ce qui est une richesse aussi aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai des lacunes un peu partout. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en France à 23 ans, un exemple. Le Père Noël est une ordure. J'aime bien prendre cet exemple.
Le film ?
Oui. J'ai pas compris le...
L'humour.
Parce que c'est vraiment un film vraiment français. Des années après, maintenant je le comprends. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est juste pour vous dire voilà, à quel point cette diversité culturelle de langues et tout est très enrichissante et super, mais ça peut aussi être handicapant, en tout cas quand on est adolescent et quand on se cherche. Là, c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à trouver sa place.
En Algérie, il y a un mot pour dire ça, double analphabète.
Ah oui.
Mais ça, c'est l'humour algérien.
Alors ça, il est unique. Heureusement qu'ils ont ça. C'est ce qui les sauve, exactement.
Alors, ce qui étonne parfois quand on a une toute petite mémoire géopolitique, c'est la rencontre entre un père algérien et une mère tchèque.
Oui, alors ça étonne beaucoup les gens quand je leur dis ce métissage que j'ai, parce qu'au fait, c'est plus courant, franco-algérien. Mais au fait, il y a des bourses qui ont été octroyées par les pays de l'Est, notamment, pour soutenir la guerre d'indépendance d'Algérie. Et donc, ces bourses ont été octroyées à des jeunes qui devait former le pays post-indépendance. Et mon père a fait partie de cette vague. Et donc, il se retrouvait à Prague et a rencontré une belle blonde aux yeux bleus.
L'Algérie étant ce qu'on appelait un pays frère.
Oui, exactement.
RSS. Alors, l'histoire de la famille maternelle se passe dans une ville qui s'appelle Plzeň.
La ville de la bière.
Voilà, donc en Tchéquie aujourd'hui, en Tchécoslovaquie il y a quelques années. Et alors, connexion avec la Tchéquie ou pas?
Alors, la connexion avec la Tchéquie, on va dire qu'elle est plus sentimentale. Vraiment, c'est le côté maternel, là, par la langue. Il y a plus un côté maternel, je ne sais pas trop comment décrire ça, mais moins fort en tout cas que l'Algérie. Je pense que je suis déjà attirée par tout ce qui est... déjà, l'Afrique, c'est vraiment...
Le Sud.
Voilà, le Sud. Je ne sais pas.
Question de lumière, moi, je vous propose aussi.
Oui, sans doute. Ouais, la lumière, et c'est vrai que... Par exemple, j'aime beaucoup l'Afrique noire. Quand j'étais au Mali, c'était mon premier pays d'Afrique. Quand j'ai quitté, j'ai pleuré. Et à chaque fois que je vais dans un pays d'Afrique noire, il y a quelque chose de très, très fort. Je ne sais pas, j'ai dû être africaine de je ne sais quel pays dans une autre vie.
Mais vous l'êtes
mais
à moitié.
Chose, oui, je le suis. Oui, mais alors, oui, c'est sûr. Mais c'est l'Afrique blanche, hein, comme on me l'a fait remarquer quand même plusieurs fois aussi. Parce que ce n'est pas évident non plus d'être acceptée... toujours, par rapport à la photo, c'est très difficile de travailler en Afrique, par exemple.
Ben vous allez nous raconter ça tout à l'heure.
Ouais.
À 23 ans, vous êtes diplômée en relations internationales et vous rêvez donc, vous le disiez en ouverture, de vivre à Paris et en même temps, l'adaptation ici en France va être difficile.
Oui, ben, j'ai toujours fantasmé sur Paris depuis petite. Mon père a grandi sous la colonisation française, donc avec une culture française aussi. Donc c'est vrai qu'à la maison, beaucoup à travers la musique, au fait, on écoutait beaucoup Jacques Brel, Aznavour, enfin. La France, pour moi, c'était à travers la musique, Edith Piaf, beaucoup aussi. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai trouvé que l'intégration était vraiment difficile.
Mais ça se jouait sur quoi ?
Sur les rapports entre les gens. Je trouve que les gens, c'est peut-être pas très bien de dire ça, mais parce qu'il y a de tout partout, hein, mais... Il y a un espèce de complexe un peu de supériorité, comme ça, de un peu hautain, qui me dérangeait beaucoup. Alors, venant des États-Unis, où même si là, il y a plein d'autres choses à critiquer, ils ont quand même ce côté très cool, les Américains. Ils sont plutôt ouverts, curieux de... Enfin, curieux de l'autre, donc ça se discute encore. Mais... Et ici, c'est vrai que je me sentais un petit peu jugée. Puis il y a ce côté un petit peu très intello aussi.
Qui attire en même temps.
Qui attire et en même temps, moi je ne suis pas du tout une intellectuelle. Et...
Non, mais la culture, enfin, vous voyez,
oui,
tout
oui.
Cet aspect-là.
Bah oui, c'est sûr qu'il y a cette attirance vers ce pays qui est quand même aussi le pays des Lumières. Enfin, il y a des choses qui me plaisent énormément. Je me suis adaptée au bout d'un moment, mais ça a mis du temps au départ, oui.
Alors au départ, justement, vous souhaitiez être comédienne, Nadia Ferrouki.
Oui, à fond, voilà.
Ça a commencé... Oui, je réveille des mauvais démons, là.
Oui.
Vous avez commencé par faire du théâtre et franchement, vous avez détesté.
Oui, oui. Là, j'ai vu que je préfère bien plus être derrière la caméra que devant, ou pas me mettre en scène devant des gens.
Alors, vous êtes derrière, à un moment donné, la caméra, si j'ose dire. Vous commencez la photo et notamment dans la mode.
Oui.
Vous êtes assistante à ce moment-là. Et ça non plus, c'est pas votre truc.
Non, j'ai mis un petit moment à me trouver. En fait, on se cherche toute la vie quelque part.
Mais oui, j'espère bien.
Oui, exactement. Mais oui, donc là, j'ai commencé un petit peu dans le mannequinat, vite fait, très vite fait. Ça a été pareil, quelque chose que je n'ai pas du tout aimé. Et ensuite, j'ai été assistante d'un photographe de mode. Et pareil, en fait, c'est un milieu qui ne me convenait pas du tout, que je trouvais, alors là pour parler autant, alors là vraiment on a l'impression que sans eux le monde ne tourne pas, donc voilà, donc j'ai pas du tout, je me sentais pas du tout en lien avec ce monde là, même s'il y a des gens intéressants certainement aussi. Et puis un jour je suis allée en vacances au Yémen, et là j'ai eu une espèce de révélation. Ben là je me suis dit voilà, c'est ça que je veux faire de la photo, c'est sûr, je veux photographier, je veux être au plus près des gens qui eux pour le coup ne sont pas dans la lumière mais dans l'ombre, raconter leur histoire. Puis même si effectivement, oui, je ne suis pas ethnologue du tout, c'est pour ça qu'avec ce travail sur le matriarcat, c'est toujours un petit peu difficile, parce que c'est un travail ethnologique, mais en même temps, je ne suis pas ethnologue, donc il faut quand même faire la différence. Je raconte des histoires, et c'est ça que je veux faire. Alors, je m'intéresse aux histoires ethnologiques, parce que je m'intéresse au peuple, à la diversité culturelle dans le monde, mais je le fais avec surtout des images avant tout.
M comme mère de Fatma.
La photo comme troisième œil chez vous, inévitablement, ça me fait penser aussi au mauvais œil chez nous. Oui. Et donc à la main de Fatma pour s'en protéger, mais pour cette question comme ça, aussi peut-être anecdotique ou pas, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes attachée à ces symboles ou à ces talismans, Nadia Ferrouki?
Oui, d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai un lien fort avec l'Afrique, je suis très gris-gris, moi j'ai beaucoup de talismans, des petits porte-bonheur, même dans mon bureau il est entouré d'objets que j'ai ramenés un peu de partout, beaucoup de la nature aussi, des bouts de terre, j'ai ramené des kilos de sable du désert par exemple, faut pas le dire parce que normalement on n'a pas le droit.
J'ai rien entendu.
Voilà, autant je suis pas croyante, autant c'est un côté un peu mystique peut-être.
Et donc avec vos porte-bonheurs multiples et variés, dont on ne dira rien de plus, la photo de reportage va vous tomber dessus à 28 ans, oui. Au Yémen, donc vous le disiez, pays pour lequel vous avez eu un vrai coup de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je fonctionne avant tout avec mes tripes. C'est l'émotion, c'est avant que ça passe par le cerveau, si on peut dire. C'est vraiment quelque chose, je sais pas, j'ai ressenti la beauté du pays, l'accueil des gens. Puis voilà, quoi, c'est le côté un peu peut-être aventurière aussi. Je fantasme un peu sur ces femmes comme Isabelle et Bérart, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des femmes comme ça dans l'histoire qui ont eu ce courage, surtout à l'époque. Aujourd'hui encore, c'est plus évident, mais... d'explorer le monde, pour moi c'est ça, c'est le côté un peu aventure et à la rencontre de l'autre.
En étant vous-même là, pas déguisée en homme
libre.
Comme une certaine,
oui, non,
Isabelle Eberhardt.
Oui, on n'est plus à la même époque aujourd'hui, on
donc,
peut faire ça.
Vous improvisez, si j'ose dire, ces voyages dans d'autres mondes qui ont d'autres codes. Vous, la blanche occidentale, c'est comme ça qu'on vous perçoit immédiatement sur le continent.
Oui, mais... je dis ça en toute modestie, je pense que ma force, c'est l'adaptation. C'est peut-être dû à mes cultures diverses, le fait que j'ai vécu dans plusieurs pays. Et je crois que c'est ce qu'on m'a dit souvent, c'est ce qu'on ressent un peu dans mes photos aussi, qu'il y a un côté très, très humain, très proche. Je ne suis pas dans le jugement. Donc je pense que ce rapport très physique même avec les gens que je rencontre à travers mes reportages, moi ça m'enrichit beaucoup et je pense leur apporter aussi. Enfin, j'espère quelque chose en échange.
Vous avez travaillé aussi auprès des Touaregs. Ce qui est sûr, c'est que immédiatement, la première impression que l'on a par rapport à votre travail, c'est que vous avez rendez-vous avec le Sud.
Oui. Pourquoi je suis tellement attirée par le pays du Sud? Peut-être aussi par rapport à une certaine injustice qu'il y a dans le monde par rapport à tous ces pays-là. L'Afrique notamment, c'est quand même un continent qui a toujours souffert, qui est encore en souffrance. Donc j'ai une grande sensibilité par rapport aux injustices qu'il peut y avoir.
Mmh. Et ce n'est pas le mot qui me viendrait quand je regarde vos photos. Ce n'est pas le mot de la souffrance. Où,
non.
Vous voyez, c'est une espèce de... pas de magnificence, mais il y a quand même une beauté certaine, une noblesse certaine des sujets auxquels vous vous attaquez. Quelles images vous avez rapportées concernant ces Touaregs au sud-est de l'Algérie, donc aux confins du Niger et de la Libye?
Déjà, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que moi, à la base, quand j'ai commencé à faire du reportage, je voulais témoigner sur les injustices. Finalement, ça ne s'est pas fait comme ça. J'en ai encore un peu une frustration aujourd'hui et j'espère encore y arriver parce que c'est ça à la base que je voulais faire. Finalement, mon chemin m'a amené plus vers des magazines comme Géo, etc., qui est super, hein, mais mm-hmm. voilà, où ils ne traitent pas ce genre de sujet. Mm-hmm. Je pense que c'est bien aussi de montrer qu'il y a aussi des gens qui, à l'autre bout du monde, n'ont pas tout ce qu'on a peut-être matériellement, mais qui vivent bien, quoi, qui, mm-hmm. voilà, et de les montrer dans toute leur beauté.
Alors, quelles images de ces Touaregs ?
Oui, je dirais, lorsqu'il y a un vent de sable, là, je parle vraiment visuel, hein. Lorsqu'il y a des vents de sable dans le désert, pour l'appareil photo, c'est catastrophique, mais pour la lumière, c'est juste magnifique. Tout est hyper contrasté, les couleurs sont explosives, et ça crée des ambiances un peu mystiques comme ça, et poétiques, enfin, vraiment quelque chose de très un peu surnaturel, où les femmes sont de dos, c'est lors d'un mariage touareg, au fait, et puis une gamine qui passe juste, elle est passée juste au moment où j'ai pris la photo. Et je trouve que cette photo, elle est assez... elle est intéressante parce que voilà, il y a toute cette lumière, cette beauté de ce peuple Touareg qui est un peuple très fier, qui est un peuple aussi très silencieux. Au départ, quand on les rencontre, quand j'étais avec mon guide, c'était un petit peu difficile parce qu'il me parlait pratiquement pas. Et je pensais qu'il me faisait la tête ou que j'avais dit quelque chose qu'il fallait pas.
Dérangé.
Que je dérangeais, oui. Et là, il m'a expliqué que, qu'au fait, ils ne sont pas trop dans les mots. Voilà.
Alors moi, j'ai une image du Tassili que vous avez ramené. J'imagine que c'est dans le Tassili. C'est l'image de ce désert donc extrêmement sensuel, avec ses dunes comme ça, et un tapis de prière à peine soulevé sur ces dunes.
Mmh. Cette photo, au fait, mon fixeur faisait sa prière. Et puis à un moment donné, il plie son tapis de prière, il le range. Et puis je lui demande si je peux prendre son tapis pour faire une photo. Donc c'est une petite installation, donc je l'ai posé. Et tout d'un coup, en plus en plein désert, il faisait quand même chaud. Hop, il n'y avait pas de vent ni rien. Il y a cette petite brise qui est venue et hop, qui a soulevé juste un petit coin du tapis. Et voilà, c'était le moment. C'est la beauté de la photographie. C'est aussi la chance, le hasard qui a fait que voilà, il y a eu juste à ce moment-là cette petite brise qui a soulevé ce tapis. Alors c'est peut-être les jeans.
Oui, on appellera ça l'esprit mille et une nuits.
Oui, voilà, l'esprit mille et une nuits.
Est-ce que vous diriez que c'est en fait l'inconnu qui vous attire quand vous photographiez ?
L'inconnu, ce que j'aime dans ce métier, c'est justement l'inconnu, c'est toujours différent. Et puis d'arriver dans un pays ou dans une culture où on ne connaît rien, c'est comme une naissance à chaque fois pour moi. C'est vraiment un enfant qui découvre. On me le dit souvent, alors souvent on ne prenait pas assez au sérieux. J'ai eu du mal à m'imposer dans la photographie parce que je ne me prends pas au sérieux. Parce que...
Ne changez rien. Alors les années 2000 vous ont ramené en Algérie, juste après la décennie noire. Et vous avez choisi entre autres deux sujets. J'ai deux, trois photos là sous les yeux que j'aimerais bien que vous nous décriviez. Vous avez choisi le sujet de la jeunesse en Algérie, les hittistes. Je pense notamment à cette photo incroyable sous les yeux. Est-ce que vous sauriez nous la décrire, Nadia Ferrouki ?
Oui, en quelques mots. Alors, c'est dans la Casbah d'Alger, avec donc ce jeune homme avec son Marcel habillé tout en blanc qui tient le mur, donc les hittistes, comme on les appelle là-bas. Au-dessus de lui, il y a l'affiche vieillie de Bouteflika.
Dans la rue, hein ?
Dans la rue. C'est triste parce que l'Algérie, c'est un pays tellement magnifique, avec un tel potentiel, et quand on voit toutes ces générations qui passent et qui passent et qui sont là à tenir le mur, c'est vraiment le cas de le dire, il n'y a rien pour eux, aucun avenir. Donc c'est vrai que cette photo, elle est assez symbolique, je pense, de tout ça, parce qu'il tient son mur et il attend.
Autre sujet que vous avez abordé, pas des moindres, celui du code de la famille. Par exemple, cette photo-là.
Ça, c'est chez SOS Femmes en détresse. En fait, le code de la famille, déjà en deux petits mots, c'est donc un code qui place la femme mineure donc sous la tutelle de l'homme. Donc pour tout, elle doit demander l'autorisation aux hommes. Et aussi, lorsque un homme épouse une autre femme et ne désire plus de la première, par exemple, il peut la répudier, donc la jeter à la rue. Donc beaucoup, beaucoup de femmes se retrouvent dans les rues des villes en Algérie et ne sont donc pas du tout protégées à cause de ce code de la famille. Donc j'ai voulu faire un travail là-dessus. Alors c'est une fête où dans ce centre de femmes, elles se retrouvaient et elles dansaient, au fait.
Oui, mais là, vous avez fait un gros plan sur des pieds de femmes, pieds nus, justement. Oui, oui. Et en arrière-plan, on voit des femmes assises. Donc maintenant, je comprends que c'est une fête. Mais ce gros plan sur ces pieds nus, pourquoi ce plan et quel lien avec le code de la famille ?
Ce plan, déjà, parce que moi, j'aime bien prendre les photos. Je trouve que ça donne une force par rapport à un message qu'on veut transmettre lorsqu'on est vraiment au ras du sol. Je fais ça assez souvent. Et par rapport au code de la famille, je pense peut-être ces femmes qui n'ont aucune protection.
Alors, pour dire un tout petit mot du Hirak, ce mouvement qui a lieu chaque vendredi en Algérie depuis 2019, on va passer par Allô le système, version Raja Mezian. De Raja Mezian qui critique comme personne le système du FLM en Algérie, et ça va parfaitement, c'est synchrone avec votre photo sur le Hirak, Nadia Ferrouki.
En fait, j'ai eu cette chance, je dirais, de participer à plusieurs Hirak les vendredis. Et c'est vrai que c'était un moment extrêmement émouvant.
Mais c'est votre œil de photographe qui m'intéresse. Pardon. C'est-à-dire que c'est le drapeau algérien.
Et devant la Grande Poste.
Devant la Grande Poste, donc au cœur d'Alger. Oui. Et sur les marches de la Grande Poste, il y a la foule du Hirak. Je me demande où vous êtes posté, vous, pour prendre cette photo.
Bah, je suis, au fait, j'ai grimpé sur un muret pour vraiment avoir une plongée sur cette foule. Et cette foule pacifique.
Alors, vous faites des photos en noir et blanc de temps en temps, mais vous préférez franchement la couleur. Vous savez quoi ? C'est Vivaldi qui va mettre quelques couleurs dans cet en sol majeur. Vous nous direz pourquoi Lauda Jérusalem juste après. Lauda Jérusalem, le psaume 147 attribué au roi David, donc mis en musique par Vivaldi. C'est une musique qui est associée à quoi pour vous, Nadia ?
Déjà, j'adore Vivaldi. Je trouve que c'était un peu le punk de son époque.
Pardon ?
Le punk, il a un côté, je sais pas, différent, je trouve. Après, je suis pas du tout une spécialiste de la musique classique, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'une force qui me parle. Et c'est une musique qui m'a accompagnée lors de... En fait, c'est le début de ce travail sur le matriarcat. Quand je suis partie au Kenya, donc c'était le premier, le village de femmes, J'ai eu des moments, ça a été difficile. Parce qu'on est quand même dans un environnement rude, en plein de brousse, on dort dans une case. J'ai eu un malaise une fois, à un moment donné aussi. Donc ça a été des moments un peu difficiles, en même temps très beaux aussi. Cette musique, je l'avais dans mon iPod, donc je l'écoutais beaucoup. Puis j'aimais bien ce contraste entre la savane africaine et la musique classique. Je trouve que ça va bien ensemble.
Nadia Ferrouki, donc née entre saveurs tchèques et algériennes, devenue photographe nomade.
Comme Poupée russe.
Avant de vous suivre sur les routes du matriarcat, Nadia, une petite question. Quelle image vous faisiez, vous, du féminin quand vous étiez petite? Est-ce que c'était l'image pour vous de la toute-puissance, un peu Amazon comme ça dans la tête, ou est-ce que vous vous sentiez conditionnée pour rentrer, on va dire, dans... sous le tablier de la soumission?
Non, parce que d'ailleurs, comme je disais, j'ai un père qui respectait la femme pleinement. Et j'ai grandi avec une sœur qui était militante, très féministe. Et donc, en fait, j'avais ce modèle. Donc, c'est vraiment par elle que je pense que ça s'est nourri dans ma tête. Mais c'est venu plus tard chez moi. Tout a été un petit peu...
Oui,
je suis toujours un peu décalée, oui, moi.
Vous êtes toujours bifurqué un peu.
Ouais.
Donc, il y a plus de 10 ans maintenant, vous vous êtes lancé dans ce projet d'aller à la rencontre des sociétés matrilinéaires, ces royaumes de femmes, comme vous dites. Pour vous, donc, l'exposition actuelle à l'atelier Galerie Taylor présente 20 photos sélectionnées parmi toutes celles qui composent le livre qu'on a sous les yeux, Les Matriarches. L'exposition est un échantillon de chaque pays. Alors, quel pays, en l'occurrence, vous avez traversé pour cette thématique?
Alors, il y a eu donc le Kenya, Guinée-Bissau, l'Inde,
l'Indonésie,
la Chine, les États-Unis, les Navajos, le Mexique, la France, le Ouessant, l'Estonie, l'île de Kinou. Et est-ce que j'en ai oublié un?
Non, ça fait bien 10 ans de voyage,
ouais,
ça.
C'est ça.
Des sociétés donc très très différentes, mais avec un point commun, la place de la femme. J'aimerais qu'on s'arrête, photo à l'appui, sur les fameux Mosso, donc cette ethnie du sud-ouest de la Chine. Racontez-nous comment se fait la filiation dans cette société matrilinéaire.
Alors la Chine, ça fait depuis la nuit des temps, dans cette communauté uniquement, ils sont à peu près 30 000 Mosso, qui vivent donc de façon matrilinéaire. Au fait, c'est la filiation passe par la mère. Donc c'est la mère qui transmet les terres, qui gère les biens, la maison, etc. Et ensuite, c'est matrilocal parce que l'homme s'installe chez la femme. Le temps qu'ils s'unissent, le temps qu'ils s'aiment, le temps qu'ils sont ensemble.
En fait, ils n'habitent pas ensemble.
Ils s'installent chez elle. Donc là, ils habitent ensemble.
Ah oui, c'est marrant parce que je regardais les somptueuses photos que vous avez ramenées et ils expliquaient que la femme était installée dans sa chambre.
Oui, ça,
les amants ne vivent pas ensemble, elle a sa chambre et, comment on l'appelle, son amant, la visite au gré de son humeur à elle.
Oui, ça c'est au départ, mais elle décide s'il peut vivre chez elle ou pas. Parce que j'étais chez des familles où il vivait chez elle pendant quelques années, puis après à un moment donné, si elle ne veut plus de lui... Ou même dans la relation, si un jour il n'y avait plus de lui, il peut toujours retourner chez sa mère ou chez sa sœur.
Ils ne sont pas mariés,
Ils ne sont pas mariés, le mariage n'existe pas. Et le tuteur de l'enfant, c'est l'oncle maternel, donc le frère aîné de la mère.
Donc le père biologique n'élève jamais son enfant.
Non, lui, il n'a aucun rôle sur ses propres enfants, mais uniquement sur les enfants de sa sœur. Sauf que là, il y a un autre phénomène, c'est avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux et tout ça, les jeunes veulent... ressembler à l'Occident. Donc, les jeunes veulent partir de plus en plus, quittent le village et surtout veulent faire comme les Occidentaux. Ils considèrent que se marier, c'est moderne.
Si la pluie ne tombe pas du ciel, les herbes ne poussent pas dans la terre. Proverbe Mosso que vous mettez en exergue de ce travail photographique. Alors justement, quelle photo de ces Mosso vous allez nous raconter? Moi, j'avais en tête la photo page 23 et page 30, mais je vous suis parce qu'il y a des histoires derrière chacune de ces photos.
Oui, alors je choisis celle-ci parce que je trouve qu'elle représente bien cette matrilinéarité, si on peut dire comme ça. C'est la photo d'une femme qui bêche sa terre et qui est debout, très fière à poser, donc pour moi. Et c'est la Dabou, c'est la chef un peu du clan.
La matriarche.
La matriarche.
Mais quelle histoire elle a, cette photographie, qu'on n'arrive pas à visualiser vraiment, hein, Nadia, je ne vous le cache pas.
Oui. En fait, je passais par là avec mon appareil photo. C'est dans un champ, à côté du lac Lougou. Et elle était en train de bêcher sa terre. Et j'ai demandé si je pouvais discuter un petit peu avec elle, à travers, bien sûr, le traducteur. Elle était étonnée de la curiosité que je portais sur cette communauté, alors que pour elle, ça se passait comme ça partout. Et donc, quand je dis que chez nous, ce n'était pas forcément comme ça, ça la fait rire.
Alors, votre livre est préfacé par Laura Adler et il rend hommage à Françoise Héritier. Car j'ai cru comprendre qu'à vos retours de voyage, souvent, Nadia Ferrouki, il vous arrivait de retrouver la parole précieuse de cet immense anthropologue, professeur au Collège de France, disparu en 2017 de mémoire, et qui souhaitait mettre son savoir justement au service de l'émancipation du sexe soi-disant faible. Dans l'archive qu'on va écouter pour en sol majeur, elle revient sur la notion de masculin-féminin chez les Hittites, vous savez, ce peuple d'Anatolie dans l'Antiquité.
On s'aperçoit d'une chose, c'est que les interdits sont toujours formulés au masculin. On ne vous dit pas « une femme n'a pas le droit d'épouser tel ou tel », alors c'est déjà quelque chose d'intrigant. Alors la réponse qui est donnée, et qui est donnée y compris par nos juristes modernes, des temps modernes, c'est que c'est inutile de le dire au féminin, parce que c'est valable dans la définition même de la proposition masculine au masculin. Donc la réciprocité et la symétrie font qu'il est inutile de le dire au féminin. Mais pourquoi est-ce toujours le cas? Pourquoi n'y a-t-il pas d'exception? Pourquoi n'y a-t-il pas de société qui décide de le dire au féminin et d'entendre la règle masculine comme des cas de réciprocité et de symétrie? Alors là, je me suis lancée dans toute une série d'enquêtes historiques auprès de sociétés qui ont vu les apparitions de codes civils. Et les premières que j'ai rencontrées sont des sociétés hittites, où il y a un code qui donne par le menu, dans le détail, toutes les interdictions pour un homme d'épouser donc des femmes apparentées. Et puis, il y a des interdictions concernant des femmes alliées, c'est-à-dire parentes par alliance. Et puis, il y a une interdiction bizarre, mais vraiment très bizarre, qui dit qu'un homme ne peut pas, en un même lieu, épouser les deux sœurs et leur mère. Alors, il y avait ce texte hittite, évidemment, moi je ne lis pas le hittite, était traduit et commenté par un historien allemand qui s'étonnait beaucoup de cette interdiction dont il ne comprenait pas le sens, puisque ces femmes n'étaient pas consanguines, d'une certaine manière, avec cet homme. Simplement, ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'elles étaient consanguines entre elles. Les deux sœurs et leur mère, c'est très exactement la réciproque féminine, c'est-à-dire qu'on aurait dû dire qu'une femme ne peut pas épouser le mari de sa mère, ne peut pas épouser le mari de sa sœur, ne peut pas épouser le mari de sa fille. Mais si on avait introduit dans le droit cette version qui est l'exasymétrique de la prohibition pour les hommes que j'ai dit tout à l'heure, eh bien on aurait fait des femmes des sujets de droit.
Pour en sol majeur, Nadia Ferrouki, simplement, comment la pensée de cette grande Françoise Héritier que vous avez eu la chance de croiser plusieurs fois pendant ce travail photographique, donc qui a travaillé comme ça sur la domination du masculin sur le féminin, comment sa pensée vous a guidé, éclairé?
Elle m'a éclairé surtout par rapport au matriarcat, justement. Il y a différentes écoles. Il y a l'école qui dit que le matriarcat n'a jamais existé, dont Françoise Héritier fait partie. Et puis il y a d'autres anthropologues qui disent que si ça a existé avant le patriarcat. Donc là, on parle dans l'Antiquité, la préhistoire même jusque-là. Mmh. Et moi, une fois de plus, je suis une raconteuse d'histoire. Je veux quand même être plus proche de la réalité. Mais je ne suis pas là pour défendre une théorie plus qu'une autre. Je suis photographe. Donc moi, ce que je raconte, c'est ces petites communautés que j'ai rencontrées à travers le monde et de raconter leur histoire, comment elles vivent leur position, leur place de femme au sein de leur communauté, qui est donc centrale et pas dominante, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que dans le mot matriarcat, on entend l'inverse, donc le patriarcat, c'est-à-dire que société où, où la femme domine, comme c'est le cas dans les sociétés patriarcales, sauf que là, c'est pas du tout comme ça. Elles ne dominent pas, elles sont centrales. Et c'est là où Françoise Héritier m'a éclairée, parce que moi, quand j'ai commencé ce travail, j'étais vraiment dans le concept du matriarcat. Et bon, après, est-ce que je la suis elle ou d'autres ? C'est là où ça a été vraiment compliqué. Je ne vous cache pas, hein, je vais être honnête, je ne vais pas dire que voilà, j'ai choisi telle ou telle théorie. Mais en tout cas, ça m'a éclairée. Et c'est pour ça que c'est ce que je mets en avant aussi. Voilà, il y a ça et il y a ça. Maintenant, à vous de voir comment vous voulez interpréter ça.
Donc, alors, puisque vous êtes une raconteuse d'histoire, racontez-nous justement les Bijagos, donc, qui vivent au large des côtes de Guinée-Bissau. Et qui se sentent avoir une mission sur Terre, de mémoire.
Bah, chez les Bijagos, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est une des rares communautés où là, pour le coup, la femme, on pourrait dire qu'elle a un pouvoir politique, entre guillemets, si on peut dire comme ça, parce que c'est une petite île complètement coupée du monde. Mais au fait, il y a un conseil de femmes qui se réunit et c'est elles qui prennent les décisions. Et il y a un roi qui sert plus ou moins de porte-parole, qui donc communique la décision prise par les femmes. Et elle considère aussi que l'homme naît incomplet. C'est-à-dire qu'il doit être incarné par l'esprit d'une femme pour qu'il soit complet.
Et alors, quelle photo vous nous raconteriez, puisque c'est votre sport préféré, je sens, Nadia.
Oui, bah, vous avez remarqué. C'est-à-dire que j'ai une anecdote, mais qui n'a pas vraiment à voir avec une de ces photos ici, parce que c'est la photo que j'ai pas pu faire, au fait.
Bah, allons-y, c'est bien ça, la photo impossible.
La photo impossible, au fait, c'est donc... ils ont un rituel où ils communiquent donc avec les esprits. À un moment donné, donc, ils doivent égorger un coq. Et ensuite, avec le sang qui coule à travers ça, ils parlent aux esprits. Donc j'ai demandé si je pouvais assister à cette scène et faire des photos. Donc, j'ai senti que c'était un petit peu pas évident. Finalement, ils ont accepté, donc j'ai acheté le coq. On était dans la case avec toutes les personnes, hommes et femmes, là, en rond. Et donc, on a mis le coq au centre. Ils l'ont égorgé. Et là, tout d'un coup, il faisait chaud, 35 degrés. On est en Afrique, le soleil. Tout d'un coup, le ciel est devenu gris. Et là, je sentis qu'il y avait une espèce de malaise dans la salle. Et donc, ma fixeuse, là, c'était une femme, c'est assez rare, me dit que l'appareil photo doit sortir. Les esprits ont parlé, il ne faut pas faire de photos. Donc moi, je pouvais rester, mais pas l'appareil photo. Donc bien évidemment, j'étais très, très déçue parce que là, je voyais déjà toutes les scènes qui défilaient sous mes yeux, des photos que je n'ai jamais pu faire. Mais voilà, mais j'ai respecté leur coutume. Quoi. Voilà,
elle est dans votre boîte noire.
Elle est dans ma boîte noire. Ouais. Moi.
Alors vous savez quoi, quand on regarde votre travail, Nadia Ferrouki, toutes ces matriarches, on se dit que le mouvement MeToo est complètement à la remorque. D'une certaine manière, sans embellir et sans... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on a juste effleuré. Mais ça nous remet en question certaines de nos catégories de pensée quand même.
Effectivement, de voir ces communautés dans des pays quand même patriarcales, ça reste quand même des petites sociétés qui vivent comme ça. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne leçon ici pour voir que ça existe aussi ailleurs et autrement et qu'on a peut-être quelque chose à prendre d'eux aussi.
Made in Mongolie, choisie par vous d'ailleurs, Nadia Ferrouki, pour en sol majeur et pour évoquer en deux temps trois mouvements, si j'ose dire, ces noms de femmes qui ont été inspirantes pour vous, peut-être dans votre travail photographique, je ne sais pas. Isabelle Eberhardt, Marie Curie et Tina Modotti. Pourquoi ces trois femmes ?
Isabelle Eberhardt, parce que d'abord, elle est extrêmement courageuse. À une époque où, voilà, déguisée en homme, se retrouvant dans le désert algérien, voilà, elle était anticolonialiste, très avant-garde par rapport à son temps, aventurière, passionnée, journaliste, écrivaine, qui a eu ce courage de partir comme ça. Donc voilà, c'est vrai que ça fait fantasmer.
Marie Curie ?
Ben, c'est la première femme, j'espère que je ne me trompe pas en disant ça, qui a eu le prix Nobel. Donc c'est vrai que voilà, grande admiration pour cette femme et ça montre un peu que il y a trop de femmes à travers l'histoire qui sont restées dans l'ombre et heureusement elles non.
Tina Modotti.
Ben là je me reconnais un petit peu en elle parce qu'on a un parcours pas du tout similaire. Enfin il y a des choses où on se retrouve. C'est voilà une fabuleuse photographe extrêmement engagée. Pareil. En fait, ce sont trois femmes qui sont nées à la fin du 19e siècle, qui ont eu ce courage de faire ce qu'elles avaient envie de faire dans un monde encore plus patriarcal qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, ça donne de l'espoir.
Et la question de la transmission, elle se fait comment alors chez la Ferrucchi ? Réponse avec un son. C'est un son et lumière hein, avec vous. Beaucoup de lumière, mais beaucoup de son aussi. À qui appartiennent ces voix ?
À ma mère et à mon fils, qui a 12 ans, qui s'appelle Neil, comme le fleuve.
Wow.
Et d'ailleurs, il va être biologiste marin, plongeur professionnel.
Il va le chercher.
Donc, hein. il porte bien son nom. Donc, elle lui apprend une chanson en tchèque pour lui transmettre un peu. Alors, je ne pense pas qu'il parlera le tchèque, mais au moins qu'il ait un souvenir d'elle et puis de sa culture.
Transmission matrilinéaire à la maison ?
Oui, voilà, à travers la langue. Là.
Merci Nadia Ferrucchi. On va refermer cet ensole majeur avec le chanteur burkinabé Victor Démé. Il vous rappelle quoi ?
Bah, déjà, pour moi, c'est l'Afrique.
Avec des points de suspension.
Avec des points de suspension, oui. L'Afrique que j'aime tant. Ambe bilan ti sini lone Nana yo nyogo na Yama yama ni alai Ambe bilan ti sini lone Ibi ele mongo udola Ona kile masabu nyuma Dunya bejeni Tegele me mogodo la Ona kima sabu nyuma Dunya bekendi Dabe yele la lomino Dabe kasi wolonde la Dunya bekendi C'est en sol majeur. Émission à réécouter donc en podcast sur votre appli Pure Radio ou à retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Le trio Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Marina Thomé.